Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'antichambre. Alors qu'on a un mardi soir chargé, vraiment, on va, oui, chargé, avec les deux panélistes les plus tranquilles, n'est-ce pas? On y revient dans un instant. On a plusieurs invités qui vont venir faire leur tour ce soir. Jonathan Marchessault, entre autres, va venir pour sa chronique « Ce qui se passe à Vegas ». On va notamment le faire réagir sur la nomination de Bruce Cassidy à la barre de l'équipe. Notre semaine des espoirs se poursuit en vue du repêchage. Ce soir, on reçoit Maverick Lamoureux des Voltigeurs de Drummondville et on va retourner à Saint-John parler avec Stéphane Leroux de cette superbe victoire des Cataractes de Shawinigan 4-3 face aux All Kings d'Edmonton. Les Cataractes qui ouvraient leur tournoi de la Coupe Memorial et qui l'ont fait de belle façon. Et mes deux panélistes, les plus sages et les plus tranquilles, PJ Stock, merci. Marc Denis. Bonsoir à vous deux.
Après avoir regardé le segment d'ouverture, j'ai l'impression qu'on est surtout les plus disponibles. N'est-ce pas? Ce soir.
On prend des notes hein, pour le segment d'ouverture. Ben oui, mais je suis très contente de vous recevoir. Puis le fait de regarder la Coupe Memorial avec vous deux, ça vous a permis de vous rappeler de bons souvenirs de vos années juniors, n'est-ce pas?
Moi, j'avais deux ans extraordinaires avec toi, avec les Tigres. Puis même, je pense que j'ai scoré une coupe sur Marc, alors c'était des bonnes mémoires pour moi.
Mais est-ce que c'était les matchs qu'on vous a éliminait ou juste des matchs qu'on
battait? Si on parle de mon gardien de but tantôt, c'était pas ma faute.
Ah, OK.
On commence avec les manchettes Albi Le Géant. Vous voyez que ça donne le ton. Moi, j'ai passé ma soirée avec ces deux-là. C'est extraordinaire. Les manchettes Albi Le Géant, c'est PJ qui commence.
Je retourne à la game hier soir, puis ne réveillez pas le géant qui dort. Puis je m'excuse, je retourne à la game numéro 2 de Tampa Bay, Colorado. Colorado menait 6-0 dans le troisième. Puis, en place de mettre ton troisième ou quatrième trio sur l'avantage numérique, ils ont retourné après chaque but avec leur gros trio, là. Le McKinnon, le McCarr, même à 6-0. Puis, je sais qu'ils ont perdu, c'était 7-0, puis Colorado était en feu. Puis, moi, après cette game-là, j'étais sûr que. Pas sûr, ça. Moi, j'ai pris Tampa avant la série, mais game 2, c'était incroyable. Puis, moi, je pensais que c'est fini. Mais. Quand tu es dans l'autre chambre, tu as besoin de chercher quelque chose. Puis pour moi, si j'étais sur la bande de Tampa, puis je vois que Colorado continue de mettre des. Même à 6-0, tu veux scorer plus, tu veux nous embarrasser. C'est ça, la petite chose qu'ils t'ont donné, puis Tampa a retourné dans le game numéro 3, puis une grosse victoire.
C'est l'équivalent de la coupure de journal que les coachs montraient dans le vestiaire, dans le temps.
C'est une motivation supplémentaire. T'sais, je regardais hier Bogosian puis Maroon. Oui. Parler avec Josh Manson, ils aiment tout ce qui se passe autour du jeu. Ils aiment déranger. Alors, ça peut avoir un impact.
Marc, ta manchette.
L'année d'Austin. Pourquoi? Parce que ce soir, il a remporté non seulement le trophée Hart remis au joueur le plus utile à son équipe, tel que voté par tous les médias, pas juste les médias de Toronto, c'est important de le noter.
Oui,
mais il a aussi...
Montréal.
Et il a aussi reçu... le trophée Ted Lindsay, tel que voté par ses pairs. Et ça, pour moi, ça en dit long quand un joueur est capable de mettre la main sur les deux trophées. Je sais qu'on va y revenir aussi, mais c'était pas une année qui était facile. Moi, j'avais le privilège de pouvoir voter pour le trophée Hart. C'était pas une année qui était évidente. Il y avait des joueurs de toutes les positions. On a eu des différents résultats. Des joueurs qui ont obtenu un grand nombre de points, des joueurs qui ont marqué beaucoup de buts, comme ça a été le cas pour Austin Matthews. C'était mon vote. Puis ça concrétise l'année d'Austin Matthews dans la Ligue nationale.
C'était une belle cuvée pour le Hart. Il y avait Austin Matthews, Connor McDavid, Igor Shesterkin en nomination quand même. C'était pas un choix facile. Les trois auraient pu le recevoir, tant qu'à moi.
Et t'avais Romagny aussi comme défenseur à Nashville qui avait 96 points. T'avais Cale Makar qui a même gagné le Norris qui était pas sur ce liste. T'avais Johnny Gaudreau qui était plus 60 kecs. T'avais Huberdeau à Floride qui avait 100 kecs. À point avec les assistances qui étaient le meilleur, je pense, pour l'aile gauche, dans l'histoire.
Caprizov,
c'était un incroyable. Toi, t'as bien fait. Tu m'as demandé mon vote, je t'ai aidé.
Tu as demandé ton avis, évidemment. Mais tu ne veux pas voter, hein, par exemple, trop de responsabilités.
Trop. Non, j'ai pas de temps.
Non, il ne peut pas, c'est trop de poids sur les épaules. Mais
est-ce qu'on commence tout de suite?
Vas-y.
C'est difficile parce que je sais les personnes qui votent. OK? C'est tellement difficile parce que. Tu travailles à Montréal, OK? Tout le monde, chaque année, moi, j'aime ça, maintenant, on peut voir qui vote, c'est quoi les notes. Mais quand tu travailles à Montréal, je joue chaque deuxième soirée. Tu arrives 2 heures avant le game. Tu écoutes la game des Canadiens. Après ça, tu as besoin de faire tes histoires pour le média, n'importe quoi. Tu retournes chez vous. Alors, tu as juste à écouter un game ce soir-là.
C'est sûr.
Le lendemain, si tu as des enfants ou n'importe quoi, quand tu as le temps d'écouter tous les autres équipes pendant la Ligue? Alors, c'est très difficile. Puis moi, je trouve souvent les équipes qui sont dans le milieu. Et Colorado, c'était bon pour McCarr, mais Les équipes comme les Calgary, Edmonton, c'était bon avec McDavid, mais tu as une game qui est à 7 et une game qui est à 10. Les games qui sont à 8, c'est difficile à les
C'est pas évident de tout suivre, c'est vrai quand même.
Bien, comme tu as décidé qu'on commençait le show tout de suite, bien, ça explique un peu pourquoi Romagnosi, selon moi, n'a pas gagné le Norris. Puis moi, je l'avais même deuxième pour le Hart. J'ai voté pour Romagnosi, deuxième devant McDavid. Puis ça, c'est un choix peut-être personnel, même avant un gardien de but.
D'accord avec ça. C'est bon. Tu m'as demandé pour mon... Pour
parce que là, c'est Cale Makar, Cale Norris. Ouais. Victor Hedman était aussi en nomination là, dans les derniers nominés et Romagnosi. Puis c'est peut-être le seul trophée surprenant, à votre avis, là, que ce soit Makar.
C'est la lutte la plus serrée et avec raison. Et d'ailleurs, Romagnosi a obtenu plus de votes de première place que Cale Makar, qui est le récipiendaire éventuel du trophée Norris. Pour moi, c'est une chaude lutte. Romagnosi a connu une saison au niveau de la production des points qui a été exceptionnelle, hors norme. Et Cale Makar, bien, clairement, il est en train de démontrer qu'il prend le flambeau de Victor Hedman. Alors, pour moi, c'est même symbolique que ces trois-là se retrouvent comme finalistes. Il y en a eu d'autres défenseurs qui ont eu une bonne saison, mais il n'y a personne d'autre qui sortait du lot. Alors, est-ce que c'est une surprise? Mon choix était Romagnosi.
On va aller voir tes choix, Marc.
Le choix de Makar était tout aussi judicieux. Et ça, ce sont mes choix tels que on devait absolument soumettre nos votes à la fin de la saison régulière. C'est important de le noter.
Pour la question pour le défenseur de l'année, Romagnosi finit deuxième. Il y avait trois personnes qui la mettaient quatrième. Alors, nous autres, on marque la parler, même si Norris, c'était tellement difficile. Alors, le top 3, c'était le top 3. Et après, même pour le Hart, tu as mentionné comme Yossi, peut-être deuxième. Mais il y a trois personnes qui l'ont mis Roman Yossi quatrième avec juste les défenseurs. Alors, je sais que c'est très difficile, mais quand même, c'était... Il faut suivre la Ligue un peu. C'est impossible qu'un gars qui a 96 points avec une équipe comme ça à Nashville, il joue pas avec McKinnon, il joue pas avec Taze ou... Matthews qui joue avec Marner, n'importe qui. Il joue à Nashville, puis il n'y a pas de personne autour de lui, puis c'est lui le meilleur joueur. Puis pour moi, quelqu'un qui est capable de le donner comme quatrième meilleur défenseur dans la Ligue.
Puis, je veux juste justifier rapidement pourquoi je n'avais pas choisi Makar.
Vas-y.
C'était sur mon bulletin de vote, parce que j'ai aussi mis Devin Taves comme cinquième défenseur pour moi. Parce que Devin Taves a supporté et a joué à la droite.
Absolument.
À la gauche de Cale Makar pendant toute la saison. Alors pour moi... cet impact-là, alors qu'il y a aussi avait des portes tournantes autour de lui, c'était véritablement le leader. Alors voilà, mais il n'y a pas eu de vol. Cale Makar n'a certainement pas volé. Puis pour moi, je choisis Cale Makar pour bâtir mon équipe aujourd'hui, avant Romagnosi également. Mais c'était peut-être le seul trophée où la lutte était un peu plus chaude, parce que pour Chesterkin, il n'y avait pas de doute. Pour Seider, il n'y avait pas de doute. Je pense qu'il n'y avait pas de doute nulle part. Le trophée Vézina, c'est voté par les DG de la Ligue nationale de hockey, soit dit en passant, pas par les membres des médias.
Restons dans le sujet des défenseurs. Caden Goulet est en action ce soir à la Coupe Memorial avec Edmonton. Comment vous l'avez trouvé de ce qu'on a vu? C'est un court échantillon, évidemment, avec Shawinigan. C'est un premier match dans le tournoi, mais il a quand même bien fait ce soir, Caden Goulet.
Il a quand même bien fait. Il est impliqué. C'est pas parfait, mais il est impliqué. On le voit dans toutes les situations. Il est en compagnie de Prokop. Bien, c'est pas compliqué. C'est les deux défenseurs qui ont été acquis à la date limite des transactions par l'équipe de Brad Lauer. Puis c'est les deux défenseurs qui ont les confrontations les plus difficiles. Je vous le rappelle, les Oil Kings agissaient à titre d'équipe à domicile ce soir, donc ils avaient le choix des confrontations, donc souvent contre Xavier Bourgault et Maverick Bourque. Et Goulet est utilisé à toutes les sauces. Deux mentions d'aide, très bon en relance, efficace le long des rampes, il a bloqué des tirs. Il s'est fait battre de vitesse, parce que Shawinigan a énormément de vitesse. Il a été aidé par Sébastien Cossa. Ça va être intéressant de voir ce que le Canadien va faire avec tous ces jeunes défenseurs éventuellement.
Beaucoup de jeunes défenseurs. Puis ça, c'est une chose qui est bon, parce que un des arguments avec les Canadiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas d'assez de profondeur. Surtout, on avait Carey Price, puis derrière lui, c'était toujours une question. Puis à défense, on avait besoin d'aller chercher des joueurs chaque année parce qu'on n'avait personne dans la Ligue américaine. Alors, on est allé chercher plusieurs cette année. Une position très, très importante pour moi, surtout d'avoir des défenseurs qui sont mobiles, qui peuvent jouer physique à la même temps. Puis tu vois exactement ça. Goulet est capable de faire les deux. Ils sont allés chercher pendant l'année aussi des autres bons jeunes défenseurs qui sont mobiles. Puis ça, c'est, on parlait tantôt des défenseurs, les séries là, qui sont incroyables. On est en train de voir Cale Makar, qu'est-ce qu'il lui est capable de faire sur la glace comme un défenseur. Alors, ça, c'est le futur de la Ligue, je pense. Donc, quand tu parles de Matthews qui est capable de le lancer, mais McDavid puis la vitesse de la game d'aujourd'hui, on a besoin de chercher des défenseurs qui sont bâtis comme ça. Puis je pense que les Canadiens ont pris un très bon pas cette année, puis de voir qu'est-ce que Caden Gooley est capable de le faire Ça, c'est peut-être une autre bonne part.
La patience. La patience. La patience est de mise aussi. Ce sont de jeunes défenseurs.
Ah oui. Et des fois, la patience à Montréal, ça nous manque un peu. On aura l'occasion de parler de la victoire de Shawinigan d'entrée de jeu dans le tournoi un peu plus tard avec Stéphane Leroux en direct de Saint-John. Pour l'instant, on s'en va du côté de Tampa Bay. Le collègue François Gagnon est sur place.
Merci, Andréane. Alors oui, je suis resté en dedans, vous m'excuserez. Je voulais pas abuser du beau temps, de la chaleur, puis tout ça. Quoique Marc Denis, qui est là avec toi, connaît très bien Tampa Bay. Il a déjà vécu. Puis PJ, ben PJ, c'est pas grave, PJ. On te retrouvera bien un moment donné. Je veux parler de la finale parce que on a peut-être un géant qui s'est réveillé hier. Un géant qui dormait à point fermé après deux parties. Andréane, tu te souviens contre les Rangers quand le Lightning a gagné le troisième match? J'ai dit c'est terminé, les Rangers n'en gagneront plus. Impossible de faire la même chose avec l'Avalanche parce que l'Avalanche, c'est un club qui est trop bon. Mais quand même, il faut faire attention parce que le Lightning est très solide. Et le Lightning a été pris de court, je dirais, lors des deux premiers matchs. On savait du côté du Lightning que l'Avalanche était rapide. On savait que McKinnon, que McCarr, c'était des grands joueurs de hockey. Mais je pense qu'on les avait sous-estimés un petit peu. Là, on a une meilleure idée de l'adversaire. On sait comment le contrôler, cet adversaire-là. Je dis contrôler à défaut de pouvoir le stopper complètement. Et ça va grandement aider le Lightning à maintenir cette ligne de conduite. Maintenant, les gardiens de but. Marc est là. Je sais que Marc, comme moi, on a toujours apprécié Darcy Kuemper. On trouvait qu'il ne jouait pas dans des bonnes formations et que c'était un meilleur gardien que ses statistiques le démontraient. Mais en ce moment, il ne peut pas faire le poids contre Andrei Vasilevski, qui est redevenu un facteur de confiance pour son équipe, mais un facteur d'intimidation pour l'adversaire. Je ne sais pas si vous l'avez senti hier en regardant ce match-là, mais ici, au Amalie Arena, ça se sentait. Inversement, pas beaucoup de confiance générée du côté de son équipe par Darcy Kuemper, qui a été mis à l'épreuve hier pour la première fois. Son jeu blanc de 7-0, on ne lui enlèvera pas. Mais il a effectué quoi, là? Deux ou trois bons arrêts dans ce match-là, tellement que Tampa était perdu. Alors, l'avantage redevient celui du Lightning, celui qu'on avait déjà établi. Et là, il sera intéressant de voir si Vasilevski pourra intimider l'Avalanche au point de permettre à son équipe de niveler les chances dans la série. Et pour moi, ça, c'est crucial. Parce que je vous lance quelques questions comme ça en partant. Est-ce que le Lightning, en gagnant demain soir et en nivelant les chances, devient l'équipe favorite pour gagner la Coupe Stanley? En ce qui me concerne, oui. Je sais que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue nationale qu'un club qui perd les deux premiers matchs de deux séries consécutives en 4-7 et les gagne, ça s'est jamais fait. Mais si un club peut le faire, c'est le Lightning de Tampa Bay. Alors j'ai très hâte de voir ce que ça donnera ici demain soir, car pour moi, demain, c'est le match pivot. Tampa gagne, il gagne la Coupe Stanley. L'Avalanche gagne, on retourne à Denver et on pourrait avoir des célébrations dès le match numéro 5. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse en débattre, puis on se donne rendez-vous un petit peu plus tard, soit avant ou après les cérémonies de célébration de la Coupe Stanley. Salut tout le monde.
Merci beaucoup, François. Vous en pensez quoi? Demain, le Lightning gagne. Le Lightning gagne la Coupe. Êtes-vous d'accord avec François?
Moi, j'ai pris Tampa, mais c'était le Game 2 puis Game 3, c'était complètement différent. Est-ce que Braden Point retourne? Puis les blessures à Paul puis Kucherov, est-ce qu'ils sont sévères? Ça, c'est les deux. Kucherov n'était pas fini la game, la dernière game, puis Paul avait été
ajouté. Devrait être là, on s'attend.
Devrait, mais c'est lui. Une équipe est blessée, puis l'autre équipe est en pleine santé. Une série de 7 games, ça va être difficile.
Mais sans Burakovsky, on a quand même senti que l'Avalanche avait un peu moins de profondeur. Avec Nazem Kadri qui n'est pas confirmé de retour encore dans la série, ça peut avoir un impact. C'est clair que l'avantage est revenu au moins du côté des gardiens de but, du côté du Lightning. Mais c'est incroyable qu'on parle d'une équipe qui tire de l'arrière 1-2.
Puis on pense que ça, on l'a...
Qui peuvent être les favoris. Mais c'est ce à quoi le Lightning nous a habitués depuis maintenant 3 ans, 3 saisons consécutives. C'est sûr que le match numéro 4, c'est toujours un match pivot, peu importe la série. Maintenant, c'est au niveau du travail de vente des entraîneurs que ça va être très difficile. Parce que tu t'en vas au Colorado, tu tires de l'arrière 1-3, John Cooper a beau avoir fait des miracles, là c'est compliqué. Puis c'est de convaincre l'Avalanche que c'est pas terminé non plus, puis qu'on a encore, on a tenu notre service, on s'est pas fait briser le service, on n'a pas perdu à domicile encore, mais le Lightning vient d'en gagner 2 de suite. Le travail de Bednar serait beaucoup plus difficile si on revient 2-2 au Colorado.
Puis soyons honnêtes, l'Avalanche s'attendait à ce que le Lightning sorte fort hier et ils s'attendent à ce qu'il sorte fort demain aussi. On n'est pas tout seul à le savoir. Là, l'Avalanche est prêt à ça.
Je pense après le deuxième game où tu as gagné 7-0, puis aux 60 minutes, c'était Colorado. La glace était comme ça pour toute la game.
Ouais.
Je sais qu'il attendait que Tampa revenait, mais les games sont souvent entre les oreilles. Puis je pensais que Tampa était plus près que Colorado pour game numéro 3.
Mais, tu sais, on le sait depuis toujours que le momentum, ça se transporte pas d'un match à l'autre. Oui. Mais pourtant, on reste accroché là-dessus. Le Lightning le sait trop bien. Ils ont été capables d'effacer ça. Là, j'ai hâte de voir si Nathan MacKinnon est capable de le faire, lui. Parce que je l'ai trouvé frustré dans le match d'hier. Je suis pas certain qu'il est entré dans la série à plein. Je sais pas comment tu as vu ça.
Non, mais avec 3-4 minutes qui restaient dans le game, puis lui, il était sur le banc. Puis le coach voulait mettre quelqu'un d'autre sur le glace. Puis Bednar dit non, reste ici. Mais lui, même c'était 5-2, quelque chose comme ça, lui voulait aller sur la glace, voulait retourner. On avait une pratique optionnelle aujourd'hui. C'était un des seuls qui était sur la glace, qui travaillait pour être encore. C'est tes leaders, comme tu dis, le momentum, puis c'est pas de game à game, c'est de journée à journée, puis ça commence avec tes gros canons. Les gars de troisième trio puis quatrième trio, on regarde les gros gars sur l'équipe, puis tu dis, est-ce qu'ils sont prêts à soir? Est-ce qu'ils ont le feu dans leurs yeux? Tu es capable de voir ça avec Tampa? Est-ce que MacKinnon va l'avoir pour game numéro 4? Moi, je pense que lui.
Ça passe pour les gros canons, mais ça s'arrête peut-être avec le gardien.
Est-ce que c'est Vasilevski qui fait la différence dans le match de demain?
Vasilevski a été formidable. J'avais mal à la jambe droite juste à regarder le match d'hier. Quand je me suis levé ce matin, il a été excellent. Moi, je pense que Vasilevski a une grosse coche sur Darcy Kemper, même si j'aime Kemper.
Si Kucherov joue, moi, je pense que Tampa va gagner cette game-là.
OK. Fait que Kucherov pourrait faire la différence. Vasilevski pourrait faire la différence. MacKinnon pourrait faire la différence.
Oui, MacKinnon pourrait faire son entrée dans la série et avoir un gros mot à dire.
Oh, on est gâtés hein, comme amateurs de hockey avec cette finale de la Coupe Stanley. Merci beaucoup, messieurs. Quelques minutes, Jonathan Marchessault vient faire son tour avec sa chronique « Ce qui se passe à Vegas ». Et plus tard à l'émission, notre défi hockey, les échappés contre le gardien de but. J'en vois un extrait. On accueille Jonathan Marchessault pour la chronique « Ce qui se passe à Vegas ». Jonathan, la dernière fois que tu es passé à l'antichambre, les Golden Knights venaient tout juste d'être éliminés. Presque deux mois plus tard, est-ce que ton bilan de la saison demeure le même là, maintenant que la poussière est retombée?
Oui. Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui a changé dans les dernières semaines. Là. Mais... c'est sûr que là, on a un nouvel entraîneur, un nouveau capitaine qui va gérer le bateau. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis aussi, on va être beaucoup plus, pour l'instant, beaucoup plus en santé. Là. Fait que je pense que ça devrait nous donner un coup de main.
Parlons-en du nouvel entraîneur, Peter DeBoer, qui a été congédié. Bruce Cassidy qui s'amène à la barre de l'équipe. Comment tu as réagi quand tu as appris cette nouvelle-là?
Bien, c'est sûr que... Je sais que l'organisation Vegas n'aime pas ça niaiser nécessairement. Fait que je pense que c'était une question de temps, surtout qu'on n'avait pas gagné. Puis on avait des bonnes équipes dans les dernières années. Mais je pense que Bruce qui va venir, j'ai entendu des bonnes affaires. Puis tu sais, je me fie d'un gars comme Patrice Bergeron. Fait que c'est un gars qui a une tête d'hockey exceptionnelle. Puis qui sait comment bien jouer la game d'hockey. Puis il a gagné avec cet entraîneur-là. Beaucoup de matchs quand même, fait que ça devrait être bon pour nous autres, je pense.
Est-ce que Bruce Cassidy a contacté les joueurs? Est-ce qu'il y a eu un Zoom, un appel conférence ou il n'y a pas encore eu de contact avec les Golden Knights?
Non, ben pas à ce que je sache. Je pense pas qu'il devrait en avoir aussi. C'est quelque chose qu'on va se parler en masse durant le camp d'entraînement et toutes ces affaires-là, fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui doit arriver, que je serais déçu ou je serais content. Là. Je pense que moi, je me regarde dans le miroir puis je fais mon travail pour arriver prêt pour la saison. Puis je pense que lui, il fait pareil.
Et Peter DeBoer, ça n'a pas été trop long. Il s'est retrouvé un banc aussi. Il sera du côté des Stars de Dallas de la saison prochaine. Es-tu surpris de le voir rebondir aussi rapidement?
Non, du tout. C'est un entraîneur qui est excessivement intelligent. Il pense très bien la game de hockey. Je pense que le seul côté que... les joueurs, on aimait moins de Pete. C'était le côté offensif puis l'avantage numérique qui roulait pas bien depuis quand même plusieurs années. Fait que c'est là qu'on voyait un peu de différence entre nous autres et lui. Mais C'est un coach qui est excessivement intelligent, qui est très, très bien structuré, qui est bien préparé aussi. Il fait du bon vidéo. Puis, pour vrai, je vois beaucoup de positifs avec Pete. Puis, c'est un excellent entraîneur. Puis, on lui souhaite le meilleur à Dallas. Là.
Les Golden Knights ont fait parler d'eux à Montréal aussi récemment avec l'échange Weber-Dadonov. Comment t'as réagi, toi, quand t'as appris cette nouvelle-là?
Ben, j'étais pas nécessairement surpris. Je pense que tout le monde de hockey, on savait que les Golden Knights voulaient échanger Dadonov depuis les derniers mois. Là.
Ouais.
Ça n'a pas nécessairement été... Ça n'a pas bien été la première fois, mais je pense que la deuxième fois, c'est un échange qui fait du sens pour nous autres. Il faut libérer de la masse salariale pour être capable de signer d'autres joueurs aussi. Puis, je pense que c'est un bon échange pour nous autres. Là.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Evgeny Dadonov, soit le joueur ou encore la personne?
C'est un excellent joueur. C'est un joueur qui est excessivement offensif, qui est bon sur les entrées de zone et aussi rentrer avec la rondelle dans la zone. C'est un gars que je trouve que les autres équipes oublient un peu. Puis c'est un gars qui est sneaky dans l'enclave. Puis c'est un bon scoreur. C'est un bon joueur. Il a une bonne vitesse aussi. Puis c'est une bonne personne aussi. J'ai vraiment aimé le courtoyer. Fait que on lui souhaite le meilleur, c'est sûr.
J'imagine que tu suis au moins d'un œil les séries de la Coupe Stanley. Est-ce que tu t'attendais à voir le Lightning de Tampa Bay en finale pour une troisième année de suite?
Personnellement, non. Je pensais que dans l'Est, mon équipe qui allait sortir, ça aurait été la Caroline. Mais ils étaient privés de leur premier gardien de but qu'ils ont eu toute l'année. Fait que je pense que ça leur a fait de mal. In the long run, mais mon deuxième pick, ça aurait été le Lightning. Je suis pas trop surpris. C'est une équipe qui, c'est peut-être à dire, mais c'est une équipe qui savent comment gagner des matchs, puis ils jouent de la bonne manière. Puis, oui, ils jouent de la bonne manière, mais encore mieux que tout ça, ils ont le meilleur gardien. C'est incroyable à quel point qu'il peut être dominant, vas-y. Puis, pour vrai, ça va être tough de battre quatre matchs, mais je pense que c'est faisable. Je pense que Colorado est une meilleure équipe, mais Vasilevskiy va leur donner un petit peu de fil à retordre, c'est sûr, parce que c'est probablement un des joueurs qui m'a le plus impressionné dans ma carrière, son éthique de travail, comment il travaille sur la glace et en dehors de la glace, puis comment il est focus durant une game de hockey, c'est fascinant. Fait que ça devrait être une série qui va aller loin quand même.
Qui t'impressionne le plus du côté de l'Avalanche, Nathan MacKinnon ou Cale Makar?
Je te dirais que comme attaquant, Nathan MacKinnon, c'est top 5 dans la Ligue nationale. T'sais, on parle tout le temps des mêmes. Là. On parle tout le temps de McDavid, Draisaitl, Matthews. C'est des gars qui jouent dans les équipes canadiennes qui sont un petit peu plus médiatisés, je dirais. Mais un gars comme Nathan MacKinnon, il est électrisant. C'est vraiment le fun de le voir, mais sincèrement, de voir un défenseur dominer autant, puis être autant offensif, puis être aussi bon à chaque match, même dans la saison régulière comme dans les séries, c'est impressionnant. Là. Comme j'ai vu Wayne Gretzky qui comparait à Bobby Orr, là. Moi, j'étais trop jeune pour voir Bobby Orr, mais c'est quand même quelque chose de phénoménal d'être comparé à un gars comme ça, puis ça en dit beaucoup sur Kel.
Jonathan, tes plans pour l'été, ça ressemble à quoi? Et il y a des admirateurs qui veulent savoir s'ils vont pouvoir te croiser quelque part au Québec.
Oui. Là, ça fait 3 semaines que je suis au Québec. J'ai fait des petits tournois de hockey pour mon garçon un petit peu partout. Je suis allé à Boston, Ottawa et Montréal. Mais je reste au Québec tout l'été. Je vais retourner pour l'école de mes enfants au mois d'août. Mais je vais être au Québec tout l'été. Puis ça fait vraiment du bien d'être à la maison, là.
Bien, Jonathan, je te souhaite un bel été d'entraînement, mais aussi de repos. Merci beaucoup pour la belle saison à l'antichambre. J'espère qu'on va se reparler très bientôt.
Merci, c'est gentil. Bon été, tout le monde.
En cette semaine des espoirs à l'antichambre, je suis très heureuse d'accueillir Maverick Lamoureux des Voltigeurs de Drummondville. Salut Maverick!
Salut, ça va?
Bien, ça va très bien. Toi, comment vas-tu en cette... alors qu'on est à quelques jours là, du repêchage?
Ça va très bien, je pourrais dire. Très content. Je commence à y penser, à le réaliser. Puis, disons, il y a des nuits que je rêve au draft puis que je me réveille, mais tu sais, j'ai vraiment hâte en ce moment.
Des beaux rêves, là, j'espère, ouais, pas de cauchemars.
Non, c'est des très beaux rêves, aucun cauchemar, ça, c'est sûr.
La fameuse année du repêchage, ça vient inévitablement avec une pression supplémentaire, des distractions de plus. Comment tu as géré ça, toi, dans les derniers mois?
Je pourrais dire que ça a été une grosse année d'apprentissage. T'sais, j'ai commencé l'année puis j'ai commencé à avoir plein d'attention au début de l'année. Uh-huh. Puis ça venait de tous les bords. Puis je pense qu'au début, je savais pas comment gérer ça. Je savais pas comment juste me concentrer à moi-même, puis juste jouer et avec tout ce qui arrivait à l'extérieur. Fait que je pourrais dire qu'au début, je pensais à beaucoup d'affaires, je jouais pas à mon meilleur, mais après ça, quand j'ai commencé à réaliser puis à commencer à gérer tout ça, c'est là que ça a vraiment bien été. Fait que ça a été une grosse année d'apprentissage, c'est sûr.
Puis dans tout ton développement, t'as jamais hésité à mettre les bouchées doubles pour te développer comme défenseur. Là, je voyais ton programme d'entraînement de Paul Boutillier, là, ouais. entre autres. Est-ce que t'es toujours le dernier joueur sorti de la glace à Drummondville?
À Drummondville, oui. Je le suis toujours. C'est quelque chose que je fais souvent. Puis il y a David Goyette qui est dans le studio en ce moment. Puis quand je jouais avec lui, c'est un rush papier ciseaux entre nous deux qui sortait.
Ah oui, hein?
Mais là, Drummondville, qui n'est pas là, c'est tout le temps moi qui sors en dernier, oui. Là.
Ça a été une grosse année aussi parce que t'auras eu plusieurs blessures. Encore là, tu arrives avec ton attel en raison d'une opération à l'épaule. Ouais. Comment tu as vécu tout ça? Ça vient avec beaucoup d'adversité là, quand on est blessé.
Vraiment, mais tu sais, j'ai appris à gérer une blessure, à jouer avec une blessure, à jouer avec la douleur. C'était pas le fun souvent, ça me nuisait beaucoup, ça m'empêchait de faire plusieurs affaires, mais à regarder, ça me tentait pas de juste pas jouer les games. Fait que de continuer puis de persévérer au travers de ça, ça a vraiment été bon, puis je suis content de l'avoir fait aussi. Là.
T'as quand même trouvé le moyen de te rendre jusqu'au combine à Buffalo, le fameux combine de la LNH. Comment ça s'est passé, cet événement-là?
Extrêmement bien. C'est juste parler, rencontrer enfin les équipes, de pas être en Zoom, rencontrer tout le monde, leur parler en vrai. C'était une expérience incroyable. Puis après ça, faire les tests aussi, tout a vraiment bien été. Fait qu'overall, c'était vraiment une bonne expérience. Puis c'était vraiment le fun de le vivre. C'est quelque chose que je regardais souvent. Puis là, d'être là en personne, c'est vraiment le fun.
Tu as mentionné que l'entrevue la plus difficile, c'était avec le Canadien de Montréal. Explique-nous ça.
Mais tu sais, il y a tout le temps, comme on a parlé tantôt, la question des animaux, que ça revient souvent avec eux. Mais c'était l'entrevue où ils me posaient des questions. Je disais mon opinion, mais ils me disaient leur façon de penser. Fait qu'ils voulaient voir juste... Comment je me défendais, comment je tenais mon bout, mais c'était juste en même temps pour voir le caractère de chaque joueur, pour voir si un joueur va se laisser faire, il va se refermer sur lui-même, il va dire vous avez raison, il va tenir son bout, puis il va dire tu sais, vous avez votre opinion, moi j'ai la mienne, puis ça c'est ma façon de penser, ça c'est la vôtre, puis les deux sont bonnes. Fait que je pense que c'était plus de ce côté-là qui était plus dur un peu, qui était plus un challenge, là, je pourrais dire.
OK, fait qu'au moins t'es sorti de là avec le sourire.
Oui,
ça,
exact.
C'est bon.
J'ai appelé mon agent après, j'ai dit que c'était la plus dure, mais j'ai dit que j'ai bien fait ça, puis j'étais fier de moi. Là.
OK, c'est parfait. Ouais. À quel joueur de la LNH, tu te compares à ce moment-ci de ta carrière?
Je me dirais un gars comme Colton Parayko. C'est vraiment quelqu'un que j'aime regarder, que c'est dans les séries, je vais le regarder tout le long, puis durant l'année, quand il y a une game à la TV, c'est sûr que c'est lui que je vais regarder. Là.
Qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans ton jeu, soit à partir de cet été ou la saison prochaine?
À partir de cet été, ça va être une grosse année où je vais pouvoir prendre la masse. Je suis grand, je pèse 200 livres, fait que je pourrais facilement mettre un 30-40 livres à ma grandeur. Fait que c'est clairement quelque chose, c'est un de mes buts principaux, mais aussi pour un grand gars, mon coup de patin, il est vraiment bon, il est excellent, mais tout le temps, tout ce qui est mon... les tight turns, des mouvements dans des petits espaces, c'est vraiment quelque chose que je veux améliorer aussi.
T'es vraiment capable d'aller chercher les petits détails que
exact.
Tu veux améliorer.
Oui.
Ton père Patrick a aussi joué dans la LHJMQ pour les Bisons de Granby. Il t'a dirigé aussi quand t'étais tout jeune. Quel est le meilleur conseil que ton père t'a donné depuis tes débuts au hockey?
Je voudrais dire de toujours avoir du fun. Ça a vraiment été important pour lui quand il a commencé à me coacher, ça a tout le temps été ça. J'arrivais à l'aréna, il y avait tout le temps de gros sourires comme moi. Mettons, je suis tout le temps avec le gros sourire partout. Puis c'est quelque chose que j'ai retenu de lui. C'est quelque chose que je fais encore à ce jour. De tout le temps arriver à chaque pratique, chaque game, de juste m'amuser. Parce que surtout à notre niveau, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on pense que ça, on pense vraiment trop compétitif. Puis mettons, avec cette année, le draft, tu penses juste au draft, tu penses juste à ça. Mais de tout le temps arriver avec le sourire puis d'avoir du fun partout. Là.
Ton ami David Goyette va être avec nous plus tard cette semaine. C'est comment de vivre une année de repêchage avec un ami d'enfance? Parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez, toi puis David. Là.
Mais c'est incroyable. En fait, les chances que ça arrive sont tellement minces. Puis voir que mon meilleur ami que je connais depuis que je suis jeune, que j'ai commencé à jouer contre quand j'étais jeune, puis après ça, toute ma vie qu'on a joué ensemble, puis qu'on s'entraîne ensemble tout l'été, puis voir qu'on a le talent, puis on a la chance d'être rendu à ce point-là de notre carrière, c'est incroyable. C'est là, c'est quelque chose qu'on se parlait au début de l'année, qu'on se textait, qu'on disait voir qu'on est rendu là, puis là, mettons qu'on va se faire drafter durant la même année, puis les chances que peut-être qu'on arrive dans une même équipe, c'est incroyable aussi comme sentiment. Là.
Je ne te laisse pas partir sans te faire parler de la fameuse mise en échec qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'était en avril, sur Xavier Parent, je pense, que t'as carrément fracassé la baie vitrée. On va la voir à l'instant. T'as dû t'en faire parler pas. Mal.
Je m'en suis fait parler souvent, même au combine, il y a des équipes qui m'en ont parlé. Oui, il y en a qui étaient très contents de ça, mais c'était sûr. C'est définitivement mon meilleur plaquage toute ma vie. Puis sûrement, je ne vais pas en avoir un meilleur, ça c'est sûr. Mais puis en plus, Xavier Parent, on s'entraîne au même gym. Fait que quand je vais aller voir, je vais m'excuser, mais après ça, je vais dire merci, c'est sûr.
En tout cas, ça fait un beau fait saillant dans ton portfolio. Vraiment. Et je te souhaite plein d'autres faits saillants. Je te souhaite de profiter de ton repêchage, d'avoir un été extraordinaire. Puis j'ai vraiment hâte de te voir déjà la saison prochaine.
Merci beaucoup. Fait plaisir. Là.
Maverick Bourque des Cataractes de Shawinigan qui a bien raison, Stéphane. C'est la meilleure façon de commencer le tournoi de la Coupe Memorial avec une victoire. Les Cataractes, vraiment, qui ont bien débuté là, face aux All Kings d'Edmonton.
Il y a un principe à la Coupe Memorial à chaque année, Andréanne, c'est que quand tu gagnes un match, tu es sûr à tout le moins de jouer le fameux match de bris d'égalité. Tu t'en iras pas à la maison après trois matchs. Si tu en gagnes un deuxième, tu t'en vas en demi-finale. Et évidemment, si tu gagnes tes trois matchs préliminaires, tu accèdes directement à la finale. Alors, ce que Maverick Bourque dit, c'est il a tout à fait raison. Et les quatre, ce soir, ont emprunté une recette qui leur est vraiment... qui fonctionne bien là, depuis le début des séries éliminatoires, c'est qu'ils sont de nouveau revenus de l'arrière. Tirés de l'arrière 3-2 face aux All Kings après 40 minutes. Et ils ont marqué deux buts là, en l'espace d'une minute 16 secondes en troisième période. Et bang-bang, soudainement, c'est devenu 4-3. Et par la suite, on a réussi à fermer la porte. C'est une équipe, en ce moment, on dirait que tout fonctionne pour eux. Tu sais, on a dit en séries éliminatoires, ils ont gagné 7 matchs sur 7 en prolongation. Ils ont fait des retours. À un certain moment, ils ont égalé un match. Il restait 6 secondes. Ils ont gagné contre Québec dans la dernière minute de jeu. Tout fonctionne pour cette équipe-là en ce moment. Et ce soir, ben, on a vu des bons matchs. Tu sais, on parle beaucoup de Maverick Bourque et de Xavier Bourgault avec raison. Là, ce sont les deux vedettes de l'équipe. Mais il y en a d'autres qui ont connu des bons matchs. Là, Charles Beaudoin a connu un bon match. Pierre-Éric Dubé a connu un bon match. Olivier Nadeau a connu un bon match. Même des joueurs du quatrième trio, là, à un certain moment, Maximilien Ledoux a manqué deux buts là, de très près. Honnêtement, cette équipe-là, en ce moment, est étonnante. Et même si on dit que, sur papier, Hamilton et Edmonton pouvaient peut-être être favoris, bien, après deux jours, Hamilton et Edmonton ont 0 et 1, et les deux équipes de la LHGMQ ont 1 et 0. Alors, c'est comme ça, en ce moment, que ça se passe. C'est un tournoi qui, pour l'instant, est un peu surprenant, un début de tournoi un peu surprenant. Hamilton et Edmonton devront rebondir là, dans leur deuxième match pour pas se retrouver, comme on dit, au pied du précipice. Mais ça va vraiment bien là, pour nos deux formations là, qui ont été excellentes, chacune à leur tour dans leur premier match.
Oui, absolument. Et Stéphane, c'est particulier parce que c'est Pascal Dupuis qui s'est adressé aux médias ce matin et après le match, et non l'entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renault. Explique-nous ce qui se passe de son côté.
Ben Daniel Renault, il parle comme ça en ce moment. Là, ça sort pas du tout. Il y a une extinction de voix. Il essaie de nous parler, mais il n'est pas capable.
Non, blague à part, là, c'est une extinction de voix là, qui a empêché l'entraîneur-chef d'aller. Et Pascal Dupuis, il y a un charisme incroyable autour de cette équipe-là. En début de saison, c'était un entraîneur adjoint à temps partiel. Lorsque Jason Clark a quitté pour le Titan d'Acadie Batters, lorsqu'on l'a nommé entraîneur-chef, on a perdu un adjoint du côté des Cataractes. Alors, Pascal Dupuis s'est impliqué un petit peu plus. Puis depuis le début des séries, bien, il est là à temps plein derrière le banc là, avec Daniel Renault. Et il apporte beaucoup, tu sais, son expérience, tout ce qu'il a vécu. Tu sais, c'est un gars qui, à 20 ans, n'a pas été repêché. Là. Il jouait encore dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, capable de transmettre des valeurs importantes. Puis je pense que l'impact de Pascal Dupuis à l'entour des Cataractes présentement, un gars qui a joué à Shawinigan, un gars que son chandail est retiré à Shawinigan, je pense que ça apporte beaucoup. Et c'est lui qui est venu effectivement rencontrer les médias là, dans la conférence d'après-match. C'est une belle histoire en ce moment, les Cataractes. Honnêtement, là, c'est, on le sait, là, ils n'avaient pas gagné en 53 ans. Ils ont finalement gagné leur première Coupe du Président. J'étais de ceux qui se posaient la question la semaine dernière, qu'est-ce qui pressait de faire un défilé de la Coupe du Président dans les rues de Shawinigan mercredi dernier. Moi, je trouvais que c'était quelque chose de dérangeant, peut-être un peu, mais ce soir, ils n'ont pas paru dérangés du tout, les Cataractes. Là. Puis ils ont montré à tout le monde qu'ils ne sont pas venus ici en touristes, qu'ils sont venus ici pour essayer de gagner le gros trophée. Ils l'ont gagné il y a 10 ans en étant équipe hôtesse. Mm-hmm. Là, on va essayer de le gagner en étant champion de des séries éliminatoires et du tournoi ici. Alors, c'est bien parti, mais c'est quand même juste un match, mais c'est un match qu'on peut, on peut plus leur enlever.
Tu as 25 secondes pour me parler de Caden Goulet. Comment tu l'as trouvé ce soir?
Bien, il était bon, Caden Goulet. Il n'a pas été exceptionnel. Je pense qu'il était peut-être un peu à l'image des All Kings, des bons moments, des moins bons moments, mais c'est un défenseur qui est excellent. Là. Puis même si ce soir, on ne l'a peut-être pas vu à son meilleur, faut pas oublier qu'il a été le joueur par excellence des séries dans la Ligue de l'Ouest et il va rebondir, c'est sûr. Les gens, on dirait que s'attendent. On ne le voit pas jouer souvent. Dès qu'on le voit jouer une première fois, on veut savoir s'il est bon. Puis il ne faut pas régler son cas ce soir sur un seul match. Il va être capable d'être meilleur que ça, mais il n'a pas été méchant du tout, là, loin de là. Puis il a eu beaucoup de minutes, il a bloqué des tirs. Puis dans l'ensemble, un match très correct là, pour Caden Goulet.
Et on pourra le regarder dès demain parce qu'Edmonton est encore en action demain soir contre les Sea Dogs, Stéphane.
Et en terminant rapidement, Andréane, ça fait 14 défaites de suite pour les champions de l'Ouest à la Coupe Memorial. Et là, on revient dès demain contre Saint John. Et si Saint John gagne demain, assure sa place en demi-finale parce qu'il y aurait deux victoires, comme je te l'expliquais tantôt. Alors déjà, c'est un match extrêmement là, important pour les deux formations, surtout pour Edmonton demain.
Et ça débute dès 18h sur les ondes de RDS. Merci beaucoup, Stéphane. Ouais. On se reparle demain soir.
Merci. Bye-bye.
On aura encore de la belle visite demain soir à l'antichambre. Tristan Luneau sera là dans le cadre de notre Semaine des espoirs. Il y a également Ray Lalonde qui sera avec nous pour sa chronique La business du sport. Jeudi, on sera là après le match des Alouettes, mais demain, on sera là un peu plus tôt, autour de 20h30 après le match de la Coupe Memorial. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir et bonne soirée à notre antenne.